on peut vivre une vie tellement plus riche quand tu es à nos côtés et que tu diriges nos pensées, nos cœurs. On a fait le déplacement aujourd'hui. On écoute ce message parce qu'on croit que tu es Dieu dans le ciel et que tu parles quand quelqu'un a besoin d'entendre ta voix. Alors maintenant, fais-toi un chemin en ce lieu, en cet instant, pour quelqu'un qui écoute ce message, dans le cœur directement, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie toute l'équipe qui a préparé cette louange. Et on va ouvrir ensemble notre Bible dans le 3e chapitre du livre de Lamentations de Jérémie. En fait, le thème que j'ai sur mon cœur et que je veux travailler avec vous, c'est vaincre les pensées négatives. Vaincre les pensées négatives. Je ne viens pas pour prêcher quelque chose que je n'ai pas vécu moi-même et j'accepte d'être quelque part vulnérable en partageant quelque chose que j'ai découvert. Peut-être vous allez dire, le pasteur vient de découvrir tardivement quelque chose que d'autres ont découvert bien plus tôt. Mais j'ai appris que c'était gagnable, que l'on peut gagner le match contre nos pensées négatives. Pendant longtemps, je me suis dit, les pensées, c'est ma tête, et c'est comme ça, je suis fait comme ça. Je dois les subir, je dois vivre avec, c'est comme ça. Ce sont mes pensées, c'est moi. Pas tout à fait. Vous avez la possibilité de vous positionner par rapport à vos pensées. Et c'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 10, ça s'affiche sur vos écrans. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Et là, je vais parler de la forteresse de vos pensées. Et il ajoute, il dit, oui, nous renversons les faux raisonnements. Au verset 5, il va plus loin, il dit, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Nous faisons prisonnière toute pensée. C'est chaud, c'est un combat ça. Pour l'amener prisonnière à obéir au Christ. Alors concrètement, ça se passe comment? J'étais mardi dernier, j'ai fait une journée de fou. Je me suis levé tôt, j'ai couru, j'ai pris le métro, je suis arrivé là-bas à la Fédération protestante, j'enchaînais des réunions avec des personnes très importantes, avec le président de la Fédé, bref, plein de gens. Et puis je devais prendre la parole en public, donc j'avais peur de ce que je disais, j'ai utilisé beaucoup d'énergie à réfléchir aux bêtises que je disais, puis aux bêtises que je disais pas, enfin bref. J'ai brûlé du stress. J'ai enchaîné l'après-midi, les enfants, tout, clac, 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 essayer de gérer un petit peu le repas. J'ai trop mangé le soir, mais ça c'est un détail. Mais tout compte. Et j'arrive à 23h30 à essayer de dormir. Et là, mon cerveau me dit, non mais tu crois pas que tu vas dormir là maintenant. Là, on va juste refaire le match. Donc c'est parti, minuit. Minuit 30, 1h, 1h30. Et là, vous voyez, quand vous voyez que vous n'arrivez pas à dormir et que vous êtes crevé, ça vous énerve. Et vous commencez à détester le fait de ne pas réussir à dormir. Je continue. Et là, il commence à avoir tous les trucs. Parce que à ce moment-là, quand vous êtes fatigué, que vous avez eu beaucoup de stress, il y a toutes les choses négatives qui viennent. Et comme des balles de ping-pong, dans une pièce fermée, comme dans une forteresse. Vous imaginez une salle, une petite boîte de 2 mètres sur 2 mètres dans laquelle vous êtes dedans, et vous balancez des balles de ping-pong qui font bing, 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 et ça rebondit partout dans votre tête. Et puis au début, il y a une balle, puis après, il y a une deuxième balle. Et puis là, je me dis, mais c'est pas vrai, j'arrive pas à dormir, et dans 3 heures, Shaina va se réveiller, elle va hurler, ça va me tuer, donc je vais pas pouvoir dormir du tout de la nuit. Et puis, du coup, je dis, oh là, mais dis donc, mais tu tousses, mon gars. Je respire moins bien, dis donc, je respire moins bien. Et là, je commence à avoir du mal, je dis, je ne vais pas ouvrir la fenêtre quand même. Et là, je deviens en super conscience. Là, je suis en pleine forme, il est 2h du matin, je suis complètement en forme. Là. Ma respiration, j'ai 15% de respiration en moins. Quand vous êtes en train de développer des trucs comme ça, c'est mauvais. Hein. C'est-à-dire, vous êtes en train de tout contrôler. J'ai dit, puis demain, si je vois ça, puis je vais faire ça. Ah, oui, mais il y a ça aussi à penser. J'ai oublié, j'aurais dû dire ça. Et là, je commence à être stressé, puis ça commence à me rendre mal, et puis là, je me dis, mais mon gars, mais t'es en train de tomber malade, là. Et bon. Et là, c'est comme une spirale dedans, et dans ma forteresse, je suis en train de descendre, et les pensées négatives, et c'est un tel vacarme là-dedans, il y a des balles de ping-pong partout. Et j'ai vécu quelque chose que je n'avais pas vécu avant. je me suis dit, ça marche ce que l'apôtre Paul dit. Il y a un choix qu'on peut faire de prendre ces pensées négatives et de leur dire, vous là, vous n'allez pas me diriger, c'est moi qui vais vous dire si vous avez le droit de parler ou pas. Je vais imposer le silence à mon âme parce que j'ai envie de décider là-dessus. Il y a deux possibilités. On va voir l'histoire du prophète Jérémie, juste dans quelques versets, il y a très très peu de versets. Le prophète Jérémie, dans toute une partie de sa vie, il a connu beaucoup de bonheur. Peut-être des fois, c'est pour ceux d'entre vous qui ont vécu des années fastes. C'est dur. À 36 ans, il a un super roi. Il a un ministère qui marche. Ils vivent des réunions incroyables. Il y a de la louange dans le temple. Le roi Josias est un homme de Dieu. Il a ramené tout le monde. Et c'est cool d'être prophète dans cette période-là. Sauf que à 36 ans, tout se passe bien. Tout d'un coup, il apprend une nouvelle. Le roi Josias est mort. Le roi Josias est mort bêtement en plus. Ouais, mais ça a tout changé. Parce que le roi qui vient après est un roi qui est complètement tordu dans sa tête, qui va éloigner le peuple de Dieu. Et c'est comme s'il va vivre une spirale qui descend. Et tout le monde, tous les projets, tous les rêves de Jérémie vont se casser les uns après les autres. Et il a plus de 60 ans quand il écrit le texte qu'on voit aujourd'hui. Il est certainement en Égypte, dans un trou perdu. Il a été amené de force par ses amis. Lui, il ne voulait pas y aller. Il se retrouve bloqué dans un pays qui n'est pas son pays. Il est mal et il broie du noir dans sa tête. Et il écrit un livre qui porte bien le nom d'ailleurs, Lamentations. Lamentation de Jérémie. Au moins, il est honnête et il va écrire les versets que l'on lit. Il commence le chapitre 3 en disant une vérité. Voilà ce qui se passe lorsque tu choisis de laisser des pensées négatives te diriger, te dominer. Il dit, moi, je suis l'homme qui a vu la souffrance. Voilà. Ça fait 24 ans que je galère. Et il dit, sous les coups du bâton de sa colère, il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Wow. Et il rajoute en disant, au verset 7, il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer au secours, il tient ma prière enfermée. Vous, de qui il parle ? Non mais attendez, de qui Jérémie est en train de parler quand il dit « Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir, il a alourdi mes chaînes, j'ai beau crier, implorer au secours, il tient ma prière enfermée. » On est en train de parler de Dieu ! Et en fait, c'est quelqu'un qui est en train de vider son sac, qui se lâche parce qu'il n'en peut plus. Il a un moment où ça explose dans son cœur. Il a tellement d'amertume que ça gicle, quoi, ça sort. Alors, il ne va pas oser le dire parce que ce n'est pas un dimanche matin qu'il va écrire ce texte. C'est un moment où il ne va pas bien. Et peut-être quand tu râles, tu n'oses pas dire « Dieu, c'est de ta faute ». Mais c'est un peu ce que tu dis quand même. Dis, Dieu, là, mes galères financières, mais si tu étais Dieu, je ne serais pas dans cet état-là. Avec le fait que mon conjoint m'ait quitté, le fait que cet enfant tourne mal, le fait que au boulot, je sois aussi maltraité. Dieu, là, je suis en train de... Et en fait, tu ne te rends pas compte que toutes ces pensées négatives... Elles rebondissent, elles sont en train de te lier. Et il est en train de se faire cadenasser. Et quand il dit « Dieu m'a mis dans une forteresse », ce n'est pas Dieu qui l'a mis dans une forteresse. C'est les pensées négatives qui sont en train de l'enfermer. Et il broie tellement du noir qu'il perd l'objectivité et il croit que c'est la faute de Dieu pour que dans son cœur, il soit aussi mal. Mais non, la vérité, c'est qu'il est mal parce que des pensées négatives sont en train de le cartonner de partout et il pense que ça vient de Dieu. Et il arrive au verset 17 à dire « Tu m'as banni, loin de la paix, je ne sais plus quel goût a le bonheur. » Y a-t-il quelqu'un qui est dans cet état-là qui écoute ce message ? Tu arrives à un point où tu dis, Dieu, je reconnais que tu peux bénir les autres, mais moi, je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de mon avenir. Je n'espère plus rien de l'éternel. Lorsque j'étais en train de penser, de façon très négative, mardi dernier, je me suis rendu compte de quelque chose. Quand tu penses de façon très négative, tu sais que ça va te détruire. Vous êtes d'accord ? Pourtant, on le fait. Pourtant, alors qu'on voit que ça nous fait du mal, on continue. Ben parce qu'en fait, le fait de penser de façon négative, ça a un avantage. Lequel ? Quel avantage ? Sinon, vous ne le feriez pas. Ça vous rend intelligent. Si, c'est vrai. Ça vous rend intelligent. Parce que tout d'un coup, vous avez la sagesse de voir tout ce qui ne va pas. Moi, je me suis dit, mais vous voyez, j'arrivais presque à mesurer ma tension. J'arrivais à voir tout. Je me dis, ma respiration a baissé, ça va. Et puis ça, faudrait que je gère. Ça que je gère. Tac, 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 je suis en contrôle de tout. Je ne contrôle rien d'ailleurs, c'est ça qui me rend dingue. Mais j'essaye. Et quelque part, c'est très très français ça. Je suis désolé pour tous ceux qui ont rejoint la métropole récemment. Bienvenue dans le pays des gens intelligents et malheureux. Les Français sont extrêmement intelligents et c'est le peuple qui mange le plus d'anxiolytiques. Vous savez, c'est génial l'esprit français. Parce qu'on est tellement intelligent que l'on fait ce genre de phrase. On dit... Je m'attends au pire, comme ça je ne serai pas déçu. Yes! Alors du coup, vous prenez même nos philosophes dès le début. Je pense, donc je suis, mais je suis malheureux, hein? Mais au moins je pense. Et on pense beaucoup. D'ailleurs, on pense avec un grand mépris tous ces Américains, vous savez, les Amerlocs, les gens qui font des dessins animés Walt Disney, le truc, ça commence bien, oui, un petit peu, puis à la fin, c'est une happy end, il n'y a que des séries américaines, de toute façon. Nous, les Français, on sait faire des films tragiques qui commencent mal, au milieu, ça va mal, et à la fin, ça finit mal. Vive la vraie vie. On est Français. Waouh. Jésus dit quelque chose. Il dit, à penser vos inquiétudes, là, qui, par ses inquiétudes, peut rajouter ne serait-ce qu'un jour à la durée de sa vie. Alors, Jésus nous dit quoi ? Je fais de la paraphrase. Mais il dit, vous allez gagner deux choses en laissant ces pensées angoissantes venir et rebondir dans votre cœur. Vous allez gagner une vie plus courte et de moins bonne qualité. Donc oui, c'est vrai, tu peux t'amuser à imaginer le pire, tout ce qui peut t'arriver. Quelqu'un peut se faire écraser, tu peux vivre ça, tu peux perdre ton emploi, ton conjoint peut t'abandonner, il peut arriver un malheur à ta petite fille, et puis il peut passer tout ça. Tu peux le passer en tête et réfléchir à tout ça. Et même dans ta grande intelligence, essayer d'anticiper des stratégies, comment tu vas réagir. Au final, tu deviens dingue. Tu as juste une vie plus courte parce que ton stress réduit ton espérance de vie. Tu vas me dire d'un côté, tant mieux, puisqu'elle n'est pas drôle. Mais c'est ça peut-être le deuxième problème. C'est le fait que ta vie, du coup, elle est malheureuse. Et tu anticipes des choses qui ne sont pas arrivées et tu souffres déjà à l'avance de certaines choses qui n'arriveront en plus jamais. Donc au final, si ça ne se produit pas, tu auras gagné quoi ? Rien du tout. Tu as juste souffert et tu as laissé des pensées te faire souffrir. Et moi, je pense ce qui se passe dans le ciel, parce qu'il est dit qu'il y a quand même un enjeu spirituel. Ce n'est pas de la faute du diable. Le diable, lui, il rigole. Il se dit, tiens, voilà une chrétienne, voilà un chrétien, qui a tous les armes, comme dit l'apôtre Paul, pour amener les pensées captives à l'obéissance de Christ, mais qui laisse mes balles de ping-pong rebondir dans sa tête. Alors comme ça, dès 8h du matin, elle est de mauvaise humeur. Dès 8h du matin, il est en train de se dire « Ah, mais ça va pas le faire. Ah, il sera de mon bus, c'est ça !» Et il se dit « Impeccable. J'arriverai comme ça à annuler l'effet du Saint-Esprit qui donne la paix, le fruit d'esprit, la joie, la patience, la bonté, etc. » Il arrive à nous bouffer ça en disant « Soyez intelligent, pensez à tous les malheurs qui vous sont arrivés et qui vous arriveront. » Et il nous laisse là-dedans et nous, on s'auto-saborde et regardez comment ça finit. Le grand prophète de l'Éternel, un homme de Dieu. Ah oui, non, parce que vous savez qu'on peut rester chrétien tout en étant extrêmement malheureux et en entretenant notre malheur. Je vais même aller un peu plus loin, vous me pardonnez. Hein. Ça ne concerne personne ici, ça concerne jusqu'aux les autres églises. On fait même des réunions de prière des fois. Où on prie comme ça, parce que Jérémie, il est en train de prier Dieu. Puis on dit, ô Seigneur, non, c'était bon, vas-y. Il dit, ô, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, de ma tata qui va mal, de ma fille qui a raté son examen, de mon problème et de cette hospitalisation que j'aurai dans quelques mois, du poison de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens. Et j'en suis abattu. Amen, fin de la réunion de prière. Poum. On a voulu simplement, regardez, c'est le genre de prière, parce que c'est une prière, hein, mais c'est une façon d'arriver devant Dieu en disant, Dieu, t'as vu tous mes fardeaux. J'espère que tu culpabilises un peu quand même. Parce que pour un chrétien, une chrétienne comme moi, avoir autant de fardeaux, ça veut quand même dire que tu fais mal ton travail. Parce que si tu étais Dieu dans le ciel, tu ne me laisserais pas une vie sentimentale misérable comme j'ai. Tiens, regarde, hein, t'as vu, hein, t'as vu mon fardeau, hein ? Eh bien, la semaine prochaine. Allez, je le reprends et je repars. Et on revient la semaine prochaine avec le même fardeau. Seigneur, j'ai vu, tu culpabilises un peu ? Pas assez, Seigneur ? Allez, je repars, tu vas voir la semaine prochaine, je reviens à la réunion de prière. Et tu déposes jamais. Tu veux juste que Dieu déprime avec toi. C'est ça, en fait. En fait, des fois, je me dis, sans cesse, je m'en souviens. Ça veut dire qu'il n'a pas l'objectif d'arrêter de s'en souvenir. Le gars, il est juste en train de se dire, je suis dedans et c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Les pensées négatives, il y a un moment où tu peux dire stop. Ou bien tu peux rester comme ça et détruire ta vie. Alors, c'est ce qui se passe. Un petit peu plus loin, on le voit. Il va y avoir quelque chose. Vous savez comment on appelle les pensées négatives comme ça ? Les Jérémiades. Pauvre, ça a pris son nom, le pauvre Jérémie. Les Jérémiades. Mais ouais, c'est ça, c'est... Tu ne décharges pas. Tu te trouves très intelligent parce que tu anticipes tous les malheurs et tu essaies de contrôler et tu ne décharges jamais devant Jésus. Deuxième possibilité, grand 2, tu peux dominer tes pensées. Je prêche pas quelque chose que j'ai pas vécu, je l'ai vécu. Quand mes balles de ping-pong étaient en train de massacrer la tête mardi à 2h du matin, j'ai tenté un truc. J'ai dit, la Bible a peut-être raison. L'apôtre Paul dit, amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ok, je tente. Le prophète Jérémie, montre le verset, juste après, merci beaucoup. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Et il continue, dit, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, ses tendresses ne sont pas épuisées, chaque matin, elles se renouvellent, oui, ta fidélité est grande. Regardez-la, regardez-la. J'étais à 2h du matin, ma situation était en train de se dégrader, et j'ai imposé à mon âme le silence. J'ai dit, non, maintenant tu te tais. Tu arrêtes de penser à tout ce qui est en train de partir en vrille, là. Tu te focalises sur Jésus. Tu fixes les yeux sur Jésus. Voilà, fixez les yeux sur Jésus. Fixez vos pensées, dit Hébreux 3, verset 1, sur Jésus. Sur quelque chose de bon, un cadeau que Dieu vous fait. Vous commencez à dire, Seigneur, il y a un avenir inespéré. Et alors, je me suis dit, quoi je peux penser ? Parce que mes balles de ping-pong, elles étaient toujours là, hein. Donc j'ai dit, allez, on va ranger les balles de ping-pong. Pensée négative, taisez-vous. Ouais, mais quand même, il y a ça qui va... Mais vous ne pouvez pas rester en disant « Je ne veux pas penser, 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 je ne veux pas penser. » Ça ne va pas le faire. La nature a horreur du vide. Regardez, demandez au maire. Dès qu'il y a un terrain vague, il ne reste pas vague longtemps. Il y a quelqu'un qui vient, autorisation ou pas, qui squatte. Le maire chasse. 2 ans plus tard, hop, c'est repris. La nature, c'est comme ça. On est dans un monde de vie, sa vie. Le diable, il voit ta pensée. Tu veux refuser ces balles de ping-pong ? Il se dit, je vais t'en renvoyer une petite. Il ne va pas te lâcher comme ça. Il faut que tu penses à autre chose. J'ai dit, mais à quoi je peux penser de positif ? À quoi je peux penser ? J'ai du mal à respirer ! J'ai du mal à respirer ! Et là, je me dis, comment ça va se passer quand Ethan, qui a un petit cadeau de Dieu, va ouvrir son cadeau de Noël le 24 au soir. Et je dis, Yvan, oblige-toi, comme le prophète Jérémie, quand il dit, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Il va y avoir, que je le veuille ou non, un 24 décembre au soir. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui, 24 décembre va arriver, sauf si Jésus est revenu, mais ce sera encore mieux. Mais 24 décembre, Conclusion, que vous soyez là ou pas, que vous soyez malade ou pas, il y aura un 24 décembre et j'aurai mon petit bonhomme qui, de toute façon, aura le droit à un cadeau le 24 au soir. Et j'ai commencé à penser à ça. J'ai dit, mais quelle va être la tête de mon fils quand il va arracher le papier cadeau et qu'il va dire, et rien que penser à ça, dis donc, j'allais mieux. Je commence à mieux respirer. Et puis j'arrête de contrôler le fait de contrôler que je contrôle, que je contrôle, que je respire. Je dis, oublie là, oublie ton corps là, 2 minutes. Là. Juste pense à la bonté de l'Éternel qui va se renouveler. Oh, ça allait mieux, dis donc. Je vous donne un autre exemple. Je ne dévoile pas de secret, il est d'accord avec. Le pasteur Christophe a récemment perdu sa carte bleue. Un peu de compassion, vous dites, oh, ça vous est arrivé? Qui c'est qui a déjà perdu une carte bleue? Levez la main. Ah, vous avez déjà permis vos papiers d'identité pour certains? Ça fait à peu près pareil. La carte bleue, il y a un truc de terrible, c'est que ça touche notre portefeuille. Et on se dit, ah, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Bon. Sauf qu'il s'est rendu compte à 23 heures qu'il avait perdu sa carte bleue. C'est pas un bon moment pour se rendre compte qu'on a perdu une carte bleue. Et là, voilà ce qui se passe. Il y a un match dans tes pensées. Le pasteur Christophe nous dit, soit vous avez le choix. Il dit, soit je commence à penser à qui va être le tordu qui va utiliser ma carte bleue, sur quel site il va aller, qu'est-ce qu'il va acheter, combien il va dépenser, comment je peux faire, comment vous faites, comment vous allez faire le tour des magasins à 23 heures pour savoir où est-ce que vous l'avez laissé. Alors il a dit, mais il y avait la possibilité de laisser mes pensées me détruire, j'aurais pas dormi de la nuit. Ou bien, je me positionne en disant, que je le veuille ou non, ça ne dépend pas de moi. Il ne sème ni ne moissonne. Les oiseaux qui volent dans les cieux. Et votre Père céleste les nourrit. Vous pouvez bosser tout ce que vous voulez. Vous pouvez préparer des métiers à tisser, faire des broderies. Salomon, dans toute sa richesse et toute sa gloire, n'a jamais eu les moyens de s'offrir un vêtement plus beau qu'une simple fleur des champs, qu'un lys sauvage. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le disiez. C'est là où il dit, qui par ses inquiétudes pour ajouter, ne serait-ce qu'un jour à la durée de sa vie. Et là, le pasteur Christophe dit, j'ai choisi de passer une bonne nuit. Je me suis dit, ça ne changera rien, ça ne rajoutera rien. De toute façon, je ne peux rien faire. Et Dieu est au-delà de mes circonstances. Je ne peux pas maîtriser mes circonstances, mais je peux maîtriser mes pensées. Je répète ça pour que tu intègres bien. Tu ne peux pas maîtriser certaines des circonstances. Ton corps, il n'y a pas que toi qui le commande. Si tu as une maladie incurable, tout ça, c'est des choses que tu traînes avec. Tout n'est pas maîtrisable. Tu ne peux pas contrôler la vie de ton conjoint, la vie de tes enfants, la vie de ceci. Tu ne peux pas tout contrôler. Il y a des choses, ça te dépasse. Par contre, tes pensées, tu les maîtrises. Et tu peux choisir. Elle dit, je me suis levé le matin, j'avais imposé le silence à mon âme et j'ai réussi à dormir en faisant taire toutes mes craintes. Le matin, je me suis levé de bonne heure, je suis allé à Monoprix et j'ai demandé, est-ce que par hasard vous n'auriez pas ma carte bleue? Et j'ai récupéré ma carte bleue. Je suis sûr que ça en est arrivé à d'autres aussi. Maintenant, je voudrais vous dire, est-ce que s'il avait passé une nuit exécrable, il aurait retrouvé sa carte bleue plus vite? La seule différence, c'est qu'il aurait eu des yeux défoncés, une nuit pourrie, une fatigue extrême, et il serait eu ma carte bleue. Mais la carte bleue, de toute façon, elle n'aurait pas bougé cette nuit. Elle dormait. Vous comprenez l'idée? Dieu ne nous demande pas de contrôler toutes nos circonstances. Il a dit, votre Père céleste sait vos circonstances. Ta maladie, elle est contrôlée par Dieu. Tes problèmes, ton célibat, ton couple, tes finances, Dieu, c'est ton travail, ton patron. Dieu, il bosse dans le ciel. Il bosse, il sait exactement. Il a dit, il n'y a aucune épreuve qui serait au-delà de vos forces. Il vous a donné exactement ce qu'il faut. Mais attends, ce qu'il faut pour que l'épreuve disparaisse? Non! Pour que votre pensée la gère. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, moi je l'appelle des farfelus, le monde trouverait que c'est des malades dans leur tête. Parce qu'ils sont capables, en pleine prison, après avoir été tabassés, battus, lacérés, enfermés, on leur a donné du pain dégoûtant à manger, de l'eau souillée, ils sont avec des fers aux pieds et ils se mettent, en plein milieu de la nuit, nous dit la Bible. ils se mettent à chanter des cantiques. C'est malade, c'est farfelu là. C'est quoi ? Quel secret de l'apôtre Paul et Silas qu'ils sont en train de chanter en prison ? C'est pas une question de circonstances. Ton bonheur ne dépendra pas des circonstances. Le jour où tu comprendras et que tu admettras l'idée que si tu étais plus riche, tu ne serais pas plus heureuse. Le jour où tu comprendras que si tu es marié, tu ne seras pas forcément plus heureux. Le jour où tu comprendras que et que tu diras « Seigneur, le bonheur », bien sûr, ça facilite ça parce que ça enlève certaines pensées. Mais tu auras toujours une balle de ping-pong qui viendra de quelque part. Donc, il y a un moment où tu vas dire « Je choisis ce que la Bible dit. » Et je choisis d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, je fixe mes yeux et je me nourris. Parce que si vous restez buggé simplement en disant « je ne veux pas de pensée négative », il y a un moment où ça ne va pas. Regardez ce que l'apôtre Paul, il est en prison d'ailleurs quand il le dit. Et il dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit, il dit aux Philippiens, « Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je vous le répète, soyez dans la joie. Ne vous mettez en souci de rien, Philippiens 4:6. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières, vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que votre cerveau peut concevoir, hein, gardera votre cœur, votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Protégez vos pensées. Le diable est après tes pensées. Il y a certaines de tes circonstances, il ne peut pas rien faire. Job était contrôlé par Dieu. Le diable a touché certaines circonstances, mais au bout d'un moment, Dieu lui a dit « tu t'arrêtes là maintenant ». Par contre, Job pouvait toujours se perdre la bataille des pensées. Et c'est pour ça qu'il dit « la pensée, Christ veut protéger votre pensée ». Enfin, frère, le seul conseil qu'il nous donne, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Waouh ! Je sais que vous êtes un peu fatigué, je vais vous mettre une pub. Tu peux mettre une pub, s'il te plaît ? Grand écran, hein ? Ah, super. Est-ce que vous êtes arrivé de prendre une météorite sur la tête ? Regardez ce que ça donne. C'est la souris qui est partie, là. C'est bon, elle revient. Voilà.
C'est votre voiture ?
Oui.
On peut dire que vous avez une chance extraordinaire.
Ah ouais, une chance incroyable. Et complètement foutu.
Mais quand on voit ça, c'est surtout vous qui avez eu de la chance.
Oui, oui, oui. Elle est bonne pour la casse. Oh, le bol.
Merci.
C'est le moment de profiter des offres qui tombent à pic.
Stop. Voilà. C'est pas de chance de se prendre une météorite quand vous avez une voiture. La probabilité est faible. Mais quand vous cumulez la probabilité de tous les soucis qui peuvent vous tomber dessus, au final, tous les jours, vous en aurez. Ce ne sera pas des météorites, ce sera des petits cailloux. Par contre, quand vous avez une météorite qui détruit votre voiture comme ça, vous avez la possibilité soit de dire « Ma voiture !» soit la possibilité de dire « Bon, la voiture est morte, mais moi, je suis en vie. » Et dire « Merci Seigneur pour la vie. » Et le troisième niveau, là, c'est vraiment le top top, le gars qui dit « Je suis en vie et je vais avoir une nouvelle voiture. Je vais prendre quoi ?» C'est un choix dans la tête. C'est une bataille dans la tête. Je vous donne une dernière histoire personnelle. J'étais en cinquième. En cinquième, je joue au foot et il m'est arrivé un truc rocambolesque. J'ai plongé, etc. Bref, je me suis enfoncé une aiguille à coudre. Non, mais c'est vraiment pas de bol. Une aiguille à coudre en plongeant, bon, bref, qui est rentrée dans mon mollet. Elle n'était pas super longue, hein, 2 cm. Mais elle est rentrée à l'intérieur. Et je ne l'ai pas vue pendant un jour. Et puis tout d'un coup, je me dis, mais ça ne marche plus très bien au niveau de mon pied. J'arrive pas. Un problème. Bon, il faut peut-être que je fasse une radio. Je suis allé à l'hôpital de Carré-Plouguer, Centre-Bretagne. Ce jour-là, il y avait un médecin de garde, c'est déjà pas mal. Oh là là là. Quand j'ai vu où il m'a amené pour faire la radio, j'ai déjà eu peur. La télé, je vous dis même pas. Même au Vietnam, ils ont des plus grosses télés que ça, même moi. Je m'installe et là, il me dit, oh, je la vois pas bien. Ah si, je la vois. Ah, je la vois plus. Ah, je la vois. En fait, l'aiguille, elle faisait... Ah, c'est des veines. Vous voyez, dans des veines, ça bouge. Ah, non, 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 ne vomissez pas si j'entends des problèmes avec le sang. Attention. Pensez à autre chose, pensez à autre chose. Et donc, j'ai ma petite aiguille qui se déplace et il me dit, bon, je vais faire une petite incision, 2 cm, ça devrait marcher. Il me prend une anesthésie locale, il me fait la première. Ouais, mais quand vous êtes à Carré-Plouguer en Centre-Bretagne, vous regretterez de ne pas habiter à Créteil près d'un vrai CHU. Oui, bon, bref. Il m'a fait 8 anesthésies locales. Il m'a ouvert sur 13 cm parce qu'il n'arrivait pas à la trouver. Et au bout de 2 heures, en train d'hurler, il m'a dit « Je l'ai !» J'ai dit « Pouh, t'as intérêt de l'avoir, parce que sinon... » J'étais en 5e, ce jour-là, je suis devenu un homme. Je suis rentré avec mes 2 béquilles. Et j'ai même eu le droit, quand je suis rentré chez moi... Il y a un truc qui est positif à Carré, en Centre-Bretagne, c'est que l'immobilier n'est pas cher. Donc dans notre maison, on avait une chambre d'amis au rez-de-chaussée pour le jour où on ne voulait pas monter l'escalier. Donc j'ai eu le droit à la chambre d'amis. Bon, décoration sommaire, hein, je vous préviens tout de suite. C'est un carré, un lit au milieu et avec... Oui, parce que ma mère aime bien les cadres. Oui, les cadres. Elle a mis un cadre en face du lit. Et comme ma mère est hyper chrétienne, dans le cadre, elle a mis un verset. Bon. Alors, je suis là sur mon lit avec mon mollet défoncé, là. Et puis, en face, il y a marqué « Psaume de David, Seigneur, toi qui es la chance de ma vie. » C'est fort en café, quand même. « Chance de ma vie. » Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens dans tes mains mon destin, c'est un sort qui m'enchante, un privilège qui me ravit. Je regarde ça, je dis ouais. Le lendemain, je me réveille, il n'y a pas de télé dans la chambre. Il y avait juste le cadre, il n'avait pas bougé la nuit, dis donc. Je me réveille le matin, Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens dans tes mains mon destin, c'est un sort qui m'enchante, un privilège qui me ravit. Le soir. J'avais rien d'autre à regarder. Seigneur, je chantais. Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me... Regardez. 23 ans plus tard, je l'ai encore dans la tête. Faut croire que je l'ai tourné, hein. Et là, je me suis dit, mais demain, je ne vais pas aller à l'école. Yes ! Plus d'école ! Et là, je vois la première tata qui vient. « Mon petit chéri, je t'ai amené un cadeau. » Yes ! Puis après, je me dis, mais quand tu vas revenir à l'école, tu pourras dire, hey, « J'ai souffert, les gars, regardez. 13 cm. » Il y a plusieurs façons de voir les choses. Ça ne m'a pas tué, ma petite aiguille. Ça me permet de raconter une histoire aujourd'hui. Mais tout dépend de la façon dont tu vis les choses. Et l'apôtre Paul, et je termine, c'est la fin, il dit dans... Philippiens, on l'a lu, nourrissez vos pensées de tout ce qui est pur, agréable, noble, digne de louange. Et verset Romains 8, on termine, Romains 8, dernier texte. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Ouais, attendez, je ne vous promets pas que vous allez voir votre situation changer, mais au travers de vos circonstances, laissez Dieu agir. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Mais pasteur, vous voyez qu'on a le droit de gémir. Vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas gémir. C'est parce que j'ai dit, tu présentes à Dieu ta requête et tu la déposes. Et qui c'est qui gémit ? Ben, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton âme de gémir. Ce n'est pas à toi de faire culpabiliser Dieu. Mais tu dis, Seigneur, tiens, voilà le paquet. Ça, Seigneur, tout ça, je ne comprends pas. Donc, je l'enlève, je te le laisse. Et ça devient, Seigneur, tu es mon avocat, d'accord ? Tu es celui qui intercède pour moi auprès du Père. Donc, le paquet, je te le laisse. Ça, c'est des circonstances, ça me dépasse, ça va me rendre dingue si j'y pense. Donc, j'arrête de penser à ça, je te laisse le paquet et je laisse le Saint-Esprit, qui est mon paraclète en grec. Qui est mon paraclète, qui est celui qui va aller à ma place gémir d'une manière inexprimable. Et pour tous ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, demandez à ce que Dieu vous baptise dans le Saint-Esprit. Parce que, notamment quand vous parlez individuellement en d'autres langues, là je parle vraiment chez vous, dans votre maison, seul, dans un moment difficile, des fois, plutôt que vous commenciez à vider votre sac et repartir avec, laissez le Saint-Esprit et louez Dieu en d'autres langues et c'est lui qui intercède à votre place. Vous gardez votre âme sous le contrôle de l'esprit. Sinon, vous allez devenir Sinon, vous allez être, et ce que beaucoup de chrétiens sont, et ce que je suis aussi, des chrétiens affectifs. Quand ça va bien, on va bien. Quand il y a une tuile qui nous tombe dessus, on dit « Dieu, mon gars !» Et notre morale, il fait ça. Et Dieu nous voit en train de faire notre brasse tous les jours, la tête sous l'eau, la tête au-dessus, la tête sous l'eau, la tête au-dessus. Et il se dit « Mais tu fais quoi, là ?» Il dit « Tu peux amener toute pensée à obéir à Christ. Laisse-moi faire le travail à ta place. Ta respiration, c'est moi qui la gère. C'est mon job. » J'ai dit « Les cheveux de votre tête sont comptés. » Et il va plus loin, et c'est le dernier verset, c'est juste après, c'est le 27. Il dit « Et Dieu scrute les cœurs. Il sait ce à quoi tend l'esprit. » Et c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons en outre, et c'est un des plus beaux versets de la Bible, que toute chose, que Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Il job là-bas au ciel. Il travaille pour les circonstances, mais il dit « Toi, gère les pensées. » Le rôle de Dieu, c'est de prendre soin de tes circonstances et de pouvoir, au travers des circonstances de ta vie, t'amener à mieux le connaître, t'amener à développer des forces nouvelles. Mais ton travail à toi, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et Dieu, qui voit dans le secret, t'aidera là-dedans. C'est un combat de tous les jours. Je ne vous promets pas que vous allez le gagner en 2 minutes. Parce que vous allez réussir à sortir 3 balles de ping-pong, il va vous rebalancer 2 autres. Vous allez ressortir les 2 balles de ping-pong, il va vous renvoyer une 3e. Mais la Bible dit, résistez au diable et fuira loin de vous. Quand il voit que tu ne joues pas avec ses babales, il dit, ok, j'abandonne la partie. Et tu retrouves ta paix. Et tu es capable d'écrire ce que Jérémie dit. Il dit à la fin, c'est incroyable, il n'y a rien qu'à changer pourtant. Il est dans la même galère, il est toujours en Égypte, il a toujours les mêmes problèmes. Mais il dit non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui font confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il dit, c'est incroyable, c'est un nouvel homme ou quoi? Non, il a orienté ses pensées. Les mêmes circonstances, mais un homme qui a retrouvé sa joie de vivre. Celui qui écrivait au verset 18, j'ai plus envie de vivre, j'ai plus de goût au bonheur. Dieu, ça ne sert à rien que je me tourne vers toi. 30 secondes plus tard, il est complètement retourné parce qu'il a imposé le silence à certaines pensées et il a choisi de focaliser sur des pensées de Dieu, des pensées positives, non pas une méthode couée. Non, non, simplement dire, Seigneur, aide-moi à mettre en place et à voir dans ma tête les choses que tu as prévues pour moi. Oui, le 24 décembre, il y aura des choses positives qui vont arriver. Je peux être dans un endroit difficile, mais je sais que encore. Et si ce n'est pas le 24 décembre, ça sera le 25. Et si jamais ce n'est pas le 25, ben ça sera le 26. Et peut-être que ça sera quand tu sortiras le 29 ou le 30. Mais Dieu a encore des projets. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, Dieu veut te l'annoncer. Mais à condition que tu arrêtes les balles de ping-pong dans ta tête. On va fermer les yeux ensemble. Seigneur, tu as la chance de ma vie. Vous savez, Dieu ne va pas toujours enlever toutes les circonstances négatives. Si Dieu nous guérissait à chaque fois qu'on lui le demandait, on n'irait jamais au ciel. On serait des petits vieux de 347 ans et toujours sur la terre. Ça finirait par être long, mes amis. Heureusement que des fois Dieu nous dit non. L'épreuve atteint aussi le juste, mais l'Éternel est avec lui et le combat est au niveau des pensées. Les circonstances sont une chose, mais le diable essaye de me mettre les pensées qui vont avec pour me détruire. Ce que les circonstances n'ont pas réussi à faire, le diable essaye de le faire au niveau des pensées. Chasse-les. Non. Non. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. il y a encore une espérance, un avenir en l'Éternel. Jésus dit, encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Je m'en vais pour vous préparer une place. Et là où je serai, vous serez aussi. En gros, il nous donne une vie, une poignée de jours sur la terre, pour apprendre à faire le tri dans nos pensées. Après quoi, de toute façon, il enlèvera toute l'âme de nos yeux. C'est un endroit très particulier, le ciel, où le loup et l'agneau sont copains. Les circonstances négatives disparaissent. Mais auront part à la vie éternelle ceux qui ont dit « Seigneur, tu es mon numéro un ». Et la guerre des pensées fait aussi partie de ce choix de mettre Dieu en numéro un. Tout le monde, ce n'est pas une lutte contre les péchés. Hein. Beaucoup de dimanches, je condamne et je suis là pour condamner le péché. Mais les pensées sont aussi une porte ouverte sur le diable. Choisis d'arrêter le chantage affectif, d'arrêter de t'auto-détruire. On va reprendre ce chant qui dit « tombant à genoux ». Tombant à genoux. La force est en Christ, mes amis. Alors, on va faire quelque chose de particulier parce que c'est tombant à genoux, mais ceux qui veulent peuvent se mettre à genoux, mais les autres, je vais vous demander de vous mettre debout. Et on va se lever à genoux, sur nos genoux. Et on va dire, Dieu, le diable ne m'a pas terrassé, je suis debout aujourd'hui, pour ceux qui le peuvent. Si quelqu'un ne peut pas se lever, je prie pour que Dieu, de toute consolation, raffermisse ton cœur, ton corps, ton esprit. Alléluia. On ferme les yeux ensemble, on va écouter juste l'équipe de louanges nous porter dans la présence de Dieu.
Tombant à genoux, je t'adore, je me livre à toi pour chercher ta face. Tout mon être est à toi. Je place ma je veux être près de toi.
Jésus, c'est toi qui es le chef, Seigneur, de nos pensées. Alléluia. Va rester debout, même si toute personne peut rester debout, on va passer par la Sainte Seine. Pendant que vous restez debout, je vous demande une chose. Est-ce que vous reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ça veut dire que, est-ce que vous le placez au-dessus de toute pensée, de tout péché dans votre vie? Les personnes désignées s'avancent sans tarder sur le devant et on commence à distribuer la Sainte Seine. C'est le corps et le sang du Seigneur qui est représenté là. Et le corps et le sang du Seigneur, c'est une coupe de bénédiction. C'est une coupe de bénédiction. Ça veut dire que c'est une coupe de positif pour ta vie. C'est quelque chose qui rappelle que Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il était mort. Son corps et son sang montrent qu'il était mort. Mais il est vivant. Il est mort à la croix pour que nous, on n'ait pas besoin de mourir. Il est mort à la croix pour que tu n'aies pas besoin de toi de porter tes circonstances. Donc tu te lèves et si jamais tu dis dans ton cœur, aujourd'hui Jésus n'est pas à la première place, je ne me suis pas encore engagé publiquement, ne prends pas la Sainte Seine, passe au voisin et dis, bientôt, je suis en train de travailler pour me mettre en règle avec Dieu. Mais chacun s'examine lui-même, même quelqu'un qui aurait été baptisé. Ne prenez pas cette Sainte Seine si jamais vous ne mettez pas Dieu en premier dans votre vie. S'il y a un péché, des pensées que vous mettez au-dessus de Dieu, faites passer. Mais si vous reconnaissez la seigneurie de Christ dans votre vie, vous dites tout dans ma vie est amené captif à l'obéissance de Christ et je prends la coupe de bénédiction. C'est un avant-goût du ciel. On la prend ensemble. Alléluia Jésus.
Alors ma foi en toi.
Est-ce qu'on peut reprendre une dernière fois digne? Ensemble. Merci notre Père pour cette possibilité, ces armes spirituelles dont tu nous parles. Seigneur, on veut amener toute pensée captive à l'autorité, à l'obéissance de Christ. Seigneur, j'ai mis tellement de temps à comprendre cela. Je prie pour que cette semaine, on le vive et que pour des personnes qui ont fait l'effort d'entendre ce message, il y ait quelque chose qui change cette semaine. Que notre lundi, notre mardi, notre mercredi, notre jeudi, notre vendredi, notre samedi, on puisse gagner le combat des pensées pour le bon nom de Jésus. Pour avoir une vie plus longue et pour avoir une vie plus belle. Et toute gloire soit rendue au Saint-Esprit qui a le leadership dans nos âmes. Amen. Que Dieu vous bénisse.